économie et politique, c'est la chronique de Philippe Jürgensen.
Non, l'euro n'est pas trop cher. Un sondage publié hier par le Financial Times, qui il est vrai n'a jamais été un ami de l'euro, fait état d'un désamour croissant de l'opinion à l'égard de la monnaie européenne. La moitié des Européens et les deux tiers des Français lui trouveraient plus d'inconvénients que d'avantages. En tout cas, la presse s'est emparée à de nombreuses reprises ces derniers temps du thème de l'euro cher. L'euro ayant trop monté par rapport au dollar étoufferait la croissance en Europe. En outre, des hausses de prix abusives pratiquées à l'occasion du passage à la monnaie unique européenne auraient entamé le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Disons tout de suite que ces deux thèses sont rigoureusement contradictoires, même si nul ne semble s'en apercevoir. En effet, un euro cher sur les marchés d'échange, c'est-à-dire qui se réévalue par rapport au dollar et aux nombreuses monnaies qui suivent celui-ci, peut entamer la compétitivité de nos économies et tend à réduire la croissance. Mais il est indéniable que cette réévaluation pèse à la baisse et non à la hausse sur les prix. Directement en ce qui concerne les importations, qui représentent tout de même un quart de la consommation totale, et indirectement à travers la baisse des coûts des entreprises. Il est par exemple évident que nous, consommateurs, payons l'essence à la pompe moins cher avec un euro fort que ce ne serait le cas avec un euro faible. Inversement, lorsque l'on s'inquiète d'une hausse des prix qui serait due à l'euro, on s'inquiète d'un phénomène inflationniste et non pas déflationniste comme le précédent. Examinons successivement ces deux aspects de l'euro cher. L'euro est-il surévalué et donc trop cher sur les marchés d'échange? Oui, mais dans une proportion qu'il ne faut pas s'exagérer. Au cours actuel, voisin de 1,30$ américain pour 1 euro, la valeur de notre monnaie est supérieure d'environ 10% à ce qu'elle était au moment du lancement de l'euro, puisque début 1999, 1 euro valait entre 117 et 118 cents américains. Cette hausse de 10% est certes significative. Elle n'est néanmoins pas de nature à bouleverser les flux commerciaux entre l'Europe et les États-Unis. La meilleure preuve, c'est que malgré l'euro fort, nos voisins allemands restent le premier exportateur mondial et ont enregistré l'an dernier un excédent commercial record de 170 milliards d'euros. Ils parviennent sans mal à rester excédentaires, même à l'égard de la zone dollar. De leur côté, les États-Unis continuent, on le sait, à enregistrer un déficit commercial extérieur colossal, 7% de leur produit national, malgré la relative dépréciation du dollar qui devrait les rendre théoriquement plus compétitifs. Quel serait le bon cours d'équilibre entre l'euro et le dollar sur le marché d'échange? Les économistes ont le droit de se poser cette question que les banquiers centraux refusent d'envisager. Certains les en approuvent, d'autres le regrettent. Ceux-là souhaiteraient le retour à des relations de change plus stables et plus équilibrées entre les différents continents monétaires, dans l'esprit des accords de Bretton Woods qui ont organisé le système monétaire international entre 1945 et 1973, ou plus tard, dans l'esprit des accords du Louvre qui, en 1985, visaient cet objectif de stabilisation. En tout cas, bien des approches sont possibles pour essayer de déterminer ce cours de change d'équilibre. Depuis la plus simple, celle des parités de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le cours qui permettrait d'acheter la même quantité de biens d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique à leur prix de marché, ou en allant jusqu'à des théories plus complexes comme celle du Behavioral Equilibrium Exchange Rate. Pour les spécialistes, c'est le taux de change d'équilibre comportemental. On peut raffiner les analyses, mais pour la plupart, ces méthodes convergent, avec bien sûr toutes les réserves de prudence que telles évaluations appellent, au cours d'environ 1,1 à 1,15 dollars américains pour 1 euro, comme cours d'équilibre. Cela semble confirmer que l'euro est un peu trop cher par rapport au dollar, mais pas dans des proportions considérables. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est que même si la zone dollar s'étend très largement au-delà des États-Unis, puisqu'elle englobe la Chine notamment et beaucoup d'autres pays d'Asie du Sud et du Sud-Est et de l'Est, ainsi que l'Amérique latine, l'évolution de l'euro par rapport au dollar doit être tempérée par son évolution à l'égard des autres monnaies. C'est ce qu'on appelle le taux de change effectif de notre monnaie. Si l'on pondère les évolutions de change par la part de chaque partenaire dans notre commerce extérieur, on s'aperçoit que l'euro ne s'est réévalué que de quelques pourcents, environ 5%, 4% au taux de change nominal, 6% après correction des écarts d'inflation, au cours des 8 années écoulées depuis son lancement. C'est trop peu pour changer fondamentalement les rapports économiques. Ceci est d'autant plus vrai, d'ailleurs, que la France fait plus de la moitié de ses échanges extérieurs avec les pays voisins, membres de la zone euro, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et ce commerce-là n'est par construction pas affecté par les variations de change. Voilà donc pour la première version de l'euro cher. Regardons maintenant l'autre version, celle selon laquelle les commerçants, industriels, vendeurs de services de toute nature auraient profité du passage du franc à l'euro pour faire, comme on le dit familièrement, valser les étiquettes. Cette thèse est très répandue et elle semble confortée par l'observation quotidienne. Qui n'a pas observé que la coupe ou le brushing chez son coiffeur a nettement augmenté, de même que le prix d'un journal, ou que le petit noir pris sur le zinc vaut moitié plus cher qu'auparavant? Les mêmes constatations se font chez nos voisins. On voit bien par exemple qu'en Italie, le cappuccino est souvent passé directement de 1000 lire à 1 euro en moyenne, c'est-à-dire 2000 lire. Les Allemands, de leur côté, ont rebaptisé la monnaie commune le Teuro, c'est-à-dire littéralement euro cher. Il y aurait donc eu hausse abusive des prix, arrondissement systématique vers le haut au moment de la conversion des francs en euros, puis exploitation par les vendeurs du fait que les consommateurs avaient perdu leur repère habituel de prix. Cela aurait conduit à une amputation du pouvoir d'achat ou, selon l'expression à la mode, à une progression de la vie chère. Il est évident que la tentation de pratiquer des arrondis ou des hausses de prix abusives a pu exister chez certains. Mais n'oublions pas qu'il existe en la matière un excellent juge de paix, la libre concurrence sur nos marchés. Ceux qui auraient été tentés par des stratégies de hausse excessive ont vite compris qu'ils perdraient leurs clients. Dans une économie ouverte, le meilleur atout contre la vie chère, c'est tout simplement une concurrence efficace. C'est pourquoi la crainte, si répandue, d'un grand dérapage inflationniste n'est pas confirmée par les faits. Les indices officiels, qui, malgré les critiques qu'on leur adresse souvent, sont construits scientifiquement par de grands professionnels à partir d'observations très larges des marchés, indiquent clairement que l'inflation n'est pas plus élevée après qu'avant l'euro, en France comme dans l'ensemble de la zone. En 2006, la hausse de l'indice général des prix a été de 1,5% seulement en France, 2,2% pour l'ensemble de la zone euro. Sur les 8 années écoulées depuis le lancement de la monnaie unique, début 1999, la hausse de l'indice des prix à la consommation en France a été de 15%, soit moins de 2% par an en moyenne. Le résultat est analogue pour l'ensemble de la zone euro, 1,9% par an en moyenne. Les études économétriques qui ont été conduites à de nombreuses reprises sur les incidences du passage à l'euro ont aussi montré qu'on ne peut imputer à ce changement de monnaie qu'une hausse minime, sans doute 0,4% au moment du basculement aux espèces en euros en 2002. Comment s'expliquer cet écart considérable, et qui, lui, est nettement plus important aujourd'hui qu'hier, entre l'inflation perçue et l'inflation réelle? Si l'on analyse un peu plus en détail les différents postes de l'indice général des prix à la consommation, on comprend rapidement que cet écart provient du fait que les prix en hausse sont ceux d'achats de faibles montants mais fréquemment répétés, alors que les prix en baisse sont souvent ceux de biens de consommation durables, de montants unitaires plus importants mais dont l'achat est plus rare. Chacun sait que, d'une façon générale, les prix des services, et notamment des services de proximité et des services à la personne, ont augmenté plus rapidement que l'ensemble des prix. C'est ce qui s'est passé pendant toute la dernière période. En France, sur les 8 années écoulées depuis le lancement de l'euro, les services ont augmenté de 19%, mais les produits manufacturés, eux, ont augmenté de 1% seulement en 8 ans. On a donc vu les prix des prestations de santé, de blanchisserie, de réparation automobile, de café, hôtel, restauration, etc., augmenter nettement plus vite que la moyenne, tandis que les prix des produits manufacturés, plus sensibles à la baisse du coût des importations, avaient eux-mêmes tendance à stagner, voire à baisser. C'est ainsi que tous les produits incorporant de l'électronique, qu'il s'agisse de télévision, d'ordinateurs, d'appareils ménagers, de téléphones portables, d'appareils photos sont en baisse marquée, parfois plus de la moitié. Quant au coût de l'énergie, il a nettement augmenté, plus 30% en moyenne, avec d'ailleurs des écarts importants, doublement du prix du fuel tandis que celui du kilowattheure électrique a baissé. Mais la cause en est évidemment la crise pétrolière, et non l'euro. De même, la vive hausse des prix d'achat de l'immobilier en capital est indéniable. Mais ce phénomène de bulle immobilière, qui rend plus difficile l'accès à la propriété, surtout pour les jeunes, n'étant rien dû à l'euro, il est général dans le monde occidental. Et pour les locataires, le coût de la construction, qui sert de base à l'indexation des loyers, a en revanche très peu progressé dans les premières années suivant le lancement de l'euro, même s'il a marqué une inflexion en hausse en 2006. Les produits alimentaires, très importants pour la vie quotidienne, ont eux évolué à peu près comme la moyenne, plus 16% depuis 1998, sauf le tabac qui s'est envolé de 78%, mais ceci du fait de taxes visant précisément à freiner sa consommation. L'habillement est resté stable. Au total, et contrairement à l'impression généralement répandue, les produits alimentaires, produits d'entretien, vêtements courants, etc., qui se trouvent dans le caddie d'une ménagère à la sortie du supermarché, n'ont augmenté qu'avec modération, dans la moyenne générale, environ 2% par an, la baisse de certains produits compensant en partie les hausses d'autres produits. Le problème, c'est que la ménagère est, elle, en général, convaincue du contraire. Elle croit que l'ensemble de ses achats ont beaucoup augmenté. Et pourtant, les chiffres confirment que le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le revenu disponible pour acheter, déduction faite de l'inflation, a progressé tout au long des dernières années, en France comme dans l'ensemble de la zone euro, d'un peu plus de 1% par an en moyenne. Ça n'est pas énorme, mais c'est une progression. Progression qui a été forte entre 1998 et 2000, qui s'est arrêtée entre 2001 et 2003 du fait du ralentissement de la croissance et non du fait de l'inflation, et qui a repris depuis. Elle serait, selon les dernières informations, de 2,4% en France pour l'année 2006. Si l'inflation était aussi forte qu'on le croit, il n'y aurait pas cette progression du pouvoir d'achat. Il est très probable que ce phénomène d'écart entre l'inflation perçue et l'inflation réelle, qui est une constante dans notre pays, a été renforcé par le soupçon de hausse anormale due au passage à l'euro. Mais il s'agit là, ni plus ni moins, d'une idée reçue, certes difficile à corriger, comme le sont tous les préjugés. Au total, on le voit, il faut dire adieu au mythe de l'euro cher. L'euro est un peu trop fort sur les marchés d'échange, mais cela contribue à faire baisser le prix des produits importés. Et il n'a pas eu d'effet inflationniste marqué, même si chacun doit bien sûr rester vigilant et faire jouer à plein la concurrence.